VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, Le Monde aujourd'hui, édition du lundi 10 décembre 2018, en direct de Washington. Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
En République démocratique du Congo, la campagne électorale a été marquée par des actes de violence.
Le médecin congolais Denis Mukwege et la Zazidi Nadia Mourad reçoivent ce lundi le prix Nobel de la paix.
La ministre française des Armées, Florence Parly, va réaffirmer aujourd'hui et demain à Bangui le soutien de la France à la République centrafricaine.
Des représentants de plus de 150 pays se réunissent ce lundi à Marrakech, au Maroc, pour approuver le pacte mondial sur les migrations piloté par l'ONU.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
En République démocratique du Congo, la campagne débutée le 23 novembre se poursuit en général sans incident majeur, mais des actes de violence ont été enregistrés hier, notamment dans une ville du Kasaï. Des détails avec Jean-Roger Bion.
Six partisans du candidat du pouvoir Emmanuel Ramazani Shadary disent avoir essuyé des jets de pierre. Ils pointent du doigt le parti d'opposition UDPS du candidat Félix Tshisekedi. L'autre candidat de l'opposition, Martin Fayulu, n'a pas pu se rendre à Kindu, dans le nord-est de la RDC, à cause des violences qui auraient fait au moins 8 blessés graves, d'après une organisation de défense des droits humains. Ces premières manifestations de violence font craindre le pire pour la journée du 23 décembre et après. La CENI a lancé une mise en garde à l'endroit des dirigeants politiques, tout en précisant vendredi que la date du scrutin sera maintenue pour la présidentielle, les législatives et les élections provinciales. 21 candidats sont en liste pour succéder au président Joseph Kabila. La proclamation des résultats provisoires est prévue le 30 décembre.
En seconde partie de cette édition, nous reviendrons sur cette campagne électorale en RDC avec notre confrère Thierry Kambundi de Top Congo FM.
Concernant toujours la RDC, le prix Nobel de la paix sera décerné ce lundi à Oslo, en Norvège, au médecin congolais Denis Mukwege et à Nadia Mourad, une Irakienne ex-esclave des djihadistes. Les deux ont souhaité hier que ce prix contribue à lever l'impunité des auteurs de violences sexuelles. Le docteur Mukwege et Nadia Mourad ont reçu le Nobel de la paix en octobre dernier pour leur lutte contre le viol en tant qu'arme de guerre. À l'hôpital de Panzi que dirige le docteur Mukwege dans le sud Kivu, l'un des responsables, le docteur Patrick Kubuya, s'est dit naturellement fier de la distinction faite à son compatriote.
Je peux seulement féliciter le docteur Mukwege parce que c'est un prix qu'il mérite par rapport à ce qu'il fait pour notre pays. Pour notre province, c'est un homme qui a risqué sa vie pour aider cette population. Je l'encourage de ne pas baisser les bras. Je sais qu'un jour, la paix reviendra dans notre pays. Je lui dis qu'on est derrière lui, on va continuer à travailler ensemble pour qu'on puisse voir comment mettre fin à ce fléau. C'est un homme dynamique, un homme courageux, un homme qui a les soucis de ses employés. Il ne s'arrête pas à être médecin directeur. Il vient aussi soigner les suivants des violences sexuelles. Ils opèrent aussi et ils font leur suivi pendant leur séjour ici à l'hôpital. C'est un homme qui prend les malades au sérieux.
Le docteur Patrick Kubuya, coordonnateur médical du projet de prise en charge des survivantes de violations sexuelles à l'hôpital de Panzi.
La ministre française des Armées, Florence Parly, doit réaffirmer aujourd'hui et demain à Bangui le soutien de la France à la République centrafricaine, où la Russie est de plus en plus présente. Elle remettra à cette occasion 1400 fusils d'assaut promis par la France, ainsi que des équipements amphibies aux forces armées centrafricaines. Florence Parly va s'entretenir avec le président Faustin Archange Touadéra, son homologue Marie-Noël Koyara, ainsi qu'avec l'émissaire de l'ONU pour la République centrafricaine, Parfait Onanga Anyanga.
Amnesty International a demandé aujourd'hui à la Cour pénale internationale l'ouverture d'une enquête formelle sur les atrocités commises depuis le début de l'insurrection des djihadistes de Boko Haram, accusant le Nigeria de n'avoir pas traduit les responsables devant la justice. La procureure de la CPI, Fatou Ben Souda, a ouvert en 2010 une enquête préliminaire sur 8 affaires présumées de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. 6 visent Boko Haram et 2 les militaires.
Dans 9 jours, les deux finalistes à l'élection présidentielle à Madagascar s'affronteront dans un second tour, dont l'issue marquera le retour au pouvoir d'un ancien chef d'État de la Grande Île, soit Marc Ravalomanana, soit le jeune politicien qui lui avait succédé il y a 9 ans, Ange Rajoel. Ce week-end, les deux candidats ont participé à leur premier débat télévisé, Gaby Dorsil.
Pour l'ancien président Ravalomanana, le souvenir du mouvement de contestation populaire encouragé par le maire d'Antananarive en 2009 reste encore vif. Et il a promis de revenir au timon des affaires pour achever, dit-il, le travail interrompu sous la présidence non élue de M. Rajoel. Dans ce débat télévisé en direct, Ravalomanana a accusé son rival d'avoir accédé au pouvoir à la faveur d'un coup d'État, lequel, selon lui, a entraîné la détérioration des conditions de vie du citoyen lambda. Il se propose comme celui qui mettra fin à ce qu'il appelle le cercle de la pauvreté à Madagascar. Rajoel, lui, a joué la carte du leader tourné vers l'avenir, promettant de résorber le chômage, de favoriser l'autosuffisance alimentaire et de combattre l'insécurité. Les deux hommes reprendront cet exercice devant les caméras et face au public 3 jours avant le scrutin du 19 décembre. Seulement 4% des suffrages les séparaient à l'issue du premier tour le 7 novembre.
Des représentants de plus de 150 pays se réunissent ce lundi à Marrakech, au Maroc, pour approuver le pacte mondial sur les migrations piloté par l'ONU, un texte destiné à renforcer la coopération internationale pour une migration sûre, ordonnée et régulière, mais qui polarise les critiques des nationalistes et des anti-migrations. Sans vote ni signature, la conférence intergouvernementale de Marrakech devait être une simple étape formelle du processus avant un ultime vote de ratification le 19 décembre à l'Assemblée générale de l'ONU. Mais le sujet déchaînant les passions, une quinzaine de pays ont fait part de leur retrait ou du gel de leur décision.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
La Chine a convoqué hier l'ambassadeur des États-Unis à Pékin pour protester énergiquement contre l'arrestation au Canada de Meng Wanzhou, directrice financière du géant technologique Huawei, dont Washington réclame l'extradition. Elle est accusée d'avoir contourné les sanctions contre l'Iran. Les autorités chinoises, qui ont demandé l'annulation de la demande d'extradition, avaient convoqué la veille l'ambassadeur canadien pour une autre note de protestation.
Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a demandé au président américain Donald Trump de ne pas se mêler de politique intérieure française après des tweets de M. Trump sur les protestations des Gilets jaunes à Paris. Nous ne tenons pas de considération sur la politique intérieure américaine et nous souhaitons que ce soit réciproque, a déclaré M. Le Drian, qui a ajouté « Je le dis à Donald Trump et le président français lui a dit aussi « Laissez-nous vivre notre vie de nation ».
Notons à ce sujet que le mouvement populaire des Gilets jaunes ne faiblit pas. Suite aux manifestations violentes du week-end, le président Emmanuel Macron va s'adresser ce lundi soir aux Français pour expliquer. Rosine Mounezero nous en dit plus.
Dans cette intervention très attendue, le chef de l'État français devrait expliquer comment il compte sortir le pays de cette situation de crise qui risque d'affecter l'économie et même de s'étendre au-delà de l'Hexagone. La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, indique que M. Macron offrira des mesures concrètes et immédiates, mais pas l'augmentation du salaire minimum réclamée par de nombreux manifestants. Une promesse la semaine dernière de baisser les prix du carburant s'est avérée insuffisante pour calmer la colère des Gilets jaunes. Ils étaient au moins 136 000 samedi à Paris où, selon les autorités locales, des dégâts matériels importants ont été enregistrés. Après une riposte musclée des forces de l'ordre, environ 2 000 interpellations, dont plus de la moitié à Paris, le gouvernement français prône le dialogue. Le Premier ministre Édouard Philippe a parlé samedi soir de la nécessité, je cite, de retisser l'unité nationale. Dans la matinée, Emmanuel Macron recevra syndicats et organisations patronales aux côtés des présidents d'associations d'élus, du Sénat et de l'Assemblée nationale. Toutefois, font remarquer les analystes, il est difficile de contenir un mouvement issu des masses via les médias sociaux, sans leader précis et surtout soutenu par une majorité de Français.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
L'Union économique et monétaire ouest-africaine projette un taux de croissance de 6,6% en 2018. Au niveau interne, la croissance de l'activité économique est demeurée forte au troisième trimestre 2018 en se situant à 6,7%. Concernant les finances publiques, une atténuation du déficit budgétaire est attendue à 3,9% du PIB contre 4,3% en 2017. Le taux d'intérêt moyen trimestriel du marché monétaire s'est situé à 2,5% contre 3,77% le trimestre précédent. L'OPEP et ses alliés ont décidé la semaine dernière d'une baisse commune de leur production de 1,2 million de barils par jour dans l'espoir de redresser les cours. Cette réduction correspond à un peu plus de 1% de la production mondiale. Elle serait portée à hauteur de 800 000 barils quotidiens par les 14 pays de l'OPEP et de 400 000 barils par jour par ses 10 partenaires, dont la Russie. Elle sera calculée à partir des niveaux de production d'octobre et fera l'objet d'un examen d'étape en avril. Terminons avec l'Organisation internationale du café qui a déclaré qu'elle prévoyait un surplus de production au niveau mondial entre 500 000 et 1,2 million de sacs pour 2018-2019, soit une diminution par rapport aux 1,7 million de sacs pour 2017-2018. L'Organisation internationale du cacao a de son côté réduit ses prévisions de surplus à l'échelle mondiale de 31 000 tonnes à 22 000 tonnes pour la saison 2017-2018.
À présent, les sports avec Élisée Ongpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Football avec la Copa Libertadores. River Plate vainqueur de cette édition 2018.
Oui, après un score de 2-2 à l'aller, la finale retour a été délocalisée au stade Santiago Bernabéu de Madrid face à l'incapacité à jouer en Argentine. Et au final, c'est River Plate qui remporte le trophée aux dépens de Boca Juniors, score 3-1 après prolongation. River Plate remporte ainsi la 4e Copa Libertadores de son histoire, la première depuis 2005, et se qualifie pour la Coupe du Monde des clubs aux Émirats Arabes Unis qui aura lieu du 12 au 22 décembre prochain.
Sur le continent, le Congo Brazzaville n'est pas candidat à l'organisation de la CAN 2019.
Constant Omari, vice-président de la CAF, l'avait pourtant affirmé il y a quelques jours. Une info démentie hier par le ministre congolais des Sports, Hugo Ngwelondele, qui explique que à 6 mois de l'organisation de cette compétition, il ne sera pas possible pour le pays de l'organiser avec honneur et dignité et que le Congo-Brazzaville ne sera pas candidat. Il faut préciser que la CAF doit vite trouver un pays pour remplacer le Cameroun, à qui l'organisation de cette CAN 2019 a été retirée.
Concernant encore le Cameroun, la commission électorale de la Fédération de football a finalement validé 7 des 9 dossiers de candidature qu'elle a reçu.
Oui, et il s'agit de Joseph Antoine Bell, Emmanuel Bissong, Franck Happy, Emmanuel Mabouan-Kessak, Seydou Mbombo Njoya, Daniel Niasi Mongue et Patrick Hervé Tchinda. À noter que les candidatures de Robert Péné et Emmanuel Boyomo ont été finalement rejetées. Précisons que l'élection aura lieu le mercredi prochain.
Tournoi de l'UFOA, zone B au Togo, le Niger a validé hier son ticket pour les demi-finales.
Les jeunes MENA ont concédé le nul 0-0 devant le Nigeria et conservent la tête du groupe B avec 4 points. La deuxième place se jouera entre le Nigeria et le Ghana lors de la dernière journée. On connaît déjà les deux équipes qualifiées dans la poule A, le Mali et le Sénégal, qui a d'ailleurs éliminé le pays hôte, le Togo.
Foot féminin avec le tirage au sort de la Coupe du Monde 2019 en France.
Oui, un mondial qui aura lieu du 7 juin au 7 juillet 2019. Et il y aura 3 équipes africaines, le Nigeria, le Cameroun et l'Afrique du Sud. Les Nigérianes, qui viennent tout juste de remporter la CAN 2018, seront dans le groupe A avec le pays hôte, suivi de la Corée du Sud et de la Norvège. Les Camerounaises logées dans le groupe E ont hérité notamment des Pays-Bas, du Canada et de la Nouvelle-Zélande. Et puis les Sud-Africaines affronteront l'Allemagne, championne olympique en titre dans la poule B, puis la Chine et l'Espagne.
Handball avec la CAN féminine et le Congo-Brazzaville éliminé en quart de finale.
Le pays hôte a été sorti par le Cameroun, score 22-21. En demi-finale, les Camerounaises vont affronter aujourd'hui les Angolaises tenantes du titre et facile vainqueur de l'Algérie. La seconde affiche des demi-finales mettra aux prises la RDC au Sénégal, invaincue depuis le début de la compétition. Et puis, pour finir, du basketball, la NBA et avec vous Idrissa, les résultats de la nuit.
New York et Charlotte 107 à 119, Toronto et Milwaukee 99 à 104, San Antonio et Utah 110 à 97, Détroit et la Nouvelle-Orléans 108 à 116.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Retour sur la campagne électorale en République démocratique du Congo, où les premières scènes de violence ont été enregistrées dimanche à Kindu, dans la province de Maniema. La coalition Lamuka, qui appuie la candidature de Martin Fayulu, accuse le pouvoir d'avoir empêché son avion d'atterrir dans cette ville. On a signalé 8 blessés graves et de nombreuses arrestations. Reportage de Thierry Kamundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Criant à l'injustice, la délégation de la coalition Lamuka qui accompagne Martin Fayulu a condamné fermement ce qu'elle a qualifié d'intolérance politique. Eve Bazaïba est la directrice de campagne adjointe et porte-parole de Martin Fayulu.
Après tous les succès que nous avions eu à Beni, Butembo, Goma, Kisangani, Bunia, aujourd'hui nous sommes allés à Buta et le programme était qu'après Buta directement nous atterrissons à Kindu. Mais pendant qu'on s'est préparé pour décoller, nous avions eu des informations alarmantes qui se sont avérées malheureusement vraies. D'abord, on a interdit aux motards taxi de venir nous accueillir à l'aéroport. Il n'y a pas de problème. Tous les militants de regroupement de la Mouka sont venus à pied. Des hélicoptères de l'armée, des avions de l'armée ont bloqué le tarmac et les instructions sont données. Oui, comme porte-parole de la Mouka, je lance un appel à M. Chadari. Pourquoi il ne peut pas appeler au calme à ces gens? Pourquoi on doit chasser les gens qui font campagne? Pourquoi?
En réaction, Emmanuel Ramazani Chadari, dont les militants ont été pointés du doigt par la coalition Lamuka, dédouane ses militants et charge l'opposition. De Kenge, où il a tenu dimanche son meeting pour lancer sa troisième phase de campagne électorale, le candidat du Front commun pour le Congo appelle tout de même au calme dans la province du Maniema.
Je crois que de mon côté, les gens se comportent très bien. Je sais que je suis ciblé par les autres candidats. C'est parce que je suis le candidat le plus fort. Je demande à tous ceux qui me soutiennent d'être prudents, de ne pas céder à des provocations parce que ce sont des pièges que les gens veulent entendre et parce qu'ils préparent la contestation. Je demande à tous ceux qui me soutiennent de ne pas céder à la provocation. Parfois, ce sont des gens de l'autre camp qui se font passer pour les partisans. Je crois que les miens sont calmes. Ils savent que les gens cherchent à me provoquer parce que tout le monde sait que le résultat qui va sortir des urnes, comme je vais gagner, la stratégie de l'autre camp, c'est la contestation parce qu'ils disent qu'il ne faut pas aller voter. Il faut aller voter avec le bulletin de vote. C'est comme s'ils appellent au boycott. Donc, c'est clair, les gens préparent la contestation. C'est pas une multitude de subterfuges, genre violence, genre provocation.
Le bilan provisoire des violences intervenues à Kindu, chef-lieu de la province du Maniema, est, selon l'Association pour l'accès à la justice, de 8 blessés graves, 3 bureaux des partis politiques saccagés et plusieurs personnes arrêtées. La CAGE, qui dénonce l'implication de certaines autorités locales, exige une enquête crédible. Félix Tshisekedi, candidat de CASH Cap pour le changement, dont le meeting à Bunia a également été perturbé par les militants de Lamuka, reste positif et rappelle sa volonté de ramener la paix à l'est du pays s'il est élu.
Tout se passe très très bien. Vous voyez les images de Goma, à Bukavu, en passant par Uvira et toutes les petites cités intermédiaires, c'était magnifique. L'engouement est partout. Le ticket gagnant que nous formons avec Lucien Saméré leur a promis de nous faire installer à la tête du pays, de venir s'installer ici jusqu'au retour définitif de la paix.
À 11 jours de la fin de la campagne électorale, le dernier virage amorcé par les candidats présidents de la République s'annonce très agité. Kinshasa, Thierry Kamundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Au Cameroun, et selon de récentes estimations, au moins 500 000 ressortissants des régions anglophones sont installés désormais dans les villes francophones du pays. Ces déplacés qui ont fui le conflit en zone anglophone vivent la plupart dans des conditions précaires, constate notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Jultap.
À Yaoundé, Timothée Moussorongo héberge 11 déplacés internes de la crise anglophone. Pour les nourrir, il a fait un champ dans un marécage du quartier Fulan et y passe désormais 2 heures chaque jour. Au total, 18 personnes cohabitent dans sa maison de 4 pièces.
Mon séjour ici à Yaoundé est bon parce que je parviens à présent à dormir. Avant, je pouvais passer toute une journée sans dormir à cause des coups de feu.
David est l'un des déplacés internes, hébergé par Timothée Mosorongo.
Je voudrais rester ici jusqu'à ce que les coups de feu cessent et puis je vais rentrer. Parce que quand j'ai quitté le sud-ouest, ma maison était comme ici et les Amazoniens tiraient sur les maisons des gens et tuaient les gens.
À la paroisse presbytérienne anglophone de Siméon, l'un des quartiers de Yaoundé, plus de 200 déplacés internes ont été recensés ici et assistent régulièrement au culte dominical. Sous anonymat, certains évoquent leurs conditions de vie à Yaoundé.
Ma vie à Yaoundé est terrible. Je ne comprends pas la langue, même pour discuter avec les gens, pour dialoguer. Je me sens très mal ici.
Je suis ici depuis 4 mois avec mes 3 enfants. Ce n'est pas facile après avoir quitté mon lieu de résidence à Bouéa, à Mouyouka. Je suis ici avec ma petite sœur. Nous vivons chez elle et j'ai des difficultés à payer les frais de scolarité. Je fais à manger et je vends au marché. Je vais d'un point à l'autre parce que je n'ai pas encore un endroit fixe pour m'asseoir.
J'ai fait déjà 6 mois ici à Yaoundé. Je ne fais rien, je vais seulement à l'église. Chaque jour, je suis là, j'attends seulement. Le temps que Dieu va toucher les gens, je vais rentrer chez moi.
Ces déplacés saluent à juste titre les langues de solidarité de la paroisse anglophone de l'église presbytérienne de Siméon, où un comité d'assistance aux déplacés internes a été mis sur pied. Les denrées alimentaires, les vêtements et de l'argent en espèces ont d'ailleurs été offerts à certains parmi eux. Cependant, la solidarité pour les déplacés anglophones à Yaoundé a parfois engendré des suspicions, témoigne Timothée Mosorongo.
Le ministère des gendarmeries avec le chef de quartier sont venus chez moi à la façon que les gens ont donné le conseil que le papa là, il a gardé les Amazoniens chez lui avec les armes. Ils sont venus à 3h du matin, ils ont dit que ils vont fouiller la maison. Bon, après plusieurs mois, tout s'est passé bien.
Le 21 novembre dernier, le gouvernement camerounais a créé un centre de coordination de l'assistance humanitaire d'urgence pour encourager notamment les réfugiés internes à revenir au Berkay, Yaoundé. Emmanuel Jultap, VOA Afrique.
Au Niger, plusieurs journalistes d'investigation ouest-africains sont en conclave à Niamey, la capitale, où les débats sont dominés par la situation sécuritaire dans le Sahel et les difficultés liées à la couverture des attaques terroristes. Kassim Traoré, notre correspondant à Bamako, a fait le déplacement de Niamey.
Les premiers jours de la rencontre des journalistes d'investigation ont été marqués par les témoignages sur la crise sécuritaire. L'immensité de l'espace géographique du Sahel rend la lutte difficile. Moussa Ag Aksar est journaliste nigérien.
Nous avons la situation en Libye où le sud libyen est complètement occupé par des djihadistes et des trafiquants de tout genre. Vous avez la situation aujourd'hui du Nigeria où la secte Boko Haram occupe pratiquement les villes frontalières du Niger et du Nigeria. Et vous avez la situation malienne avec celle de la frontière au Burkina Faso où les groupes djihadistes sont en train de se réorganiser et ils mènent des attaques sur les postes frontaliers isolés.
Comment mieux couvrir les attaques terroristes? La question a été traitée par Ibrahim Moussa du Niger.
Généralement, pour les experts, ce qui a été conseillé aux journalistes, c'est d'essayer de voir comment est-ce qu'il faut approcher une situation d'attaque terroriste quand elle se présente. Parce que sans le savoir, de manière inconsciente, les médias ont pendant longtemps joué le jeu du terroriste. Dès qu'une attaque intervient, les médias traditionnels relayent des informations qui, en réalité, au lieu de desservir les terroristes, les gens, sans le savoir, ont joué le jeu.
Les enjeux géostratégiques du Sahel font que plusieurs acteurs y interviennent. Les pays africains, mais aussi les puissances internationales. Professeur Issoufou Yaya du Niger.
Aujourd'hui, c'est une course mondiale pour l'énergie. Eh bien, les meilleures sources d'énergie, elles sont au Sahel. Aujourd'hui, les ressources minérales, c'est au Sahel qu'on les a à moindre frais. Les investissements, presque tout le monde fait un mouvement pour venir au Sahel parce que l'Eldorado, du point de vue stratégique, en ce qui concerne les matières première, c'est le Sahel. Tout est là à moindre frais avec des dirigeants peu responsables et peu regardants. Si bien que chacun trouve son compte, malheureusement, sauf les Sahéliens.
Ce qui rend l'information et sa collecte difficile pour certains médias, comme les radios communautaires. Bandjougou Danté, président de l'URTEL.
Il y a des défis parce que du côté même des acteurs de la sécurité, il y a une interprétation. Il y a souvent un sentiment de mea culpa, si je peux m'exprimer ainsi, et même un sentiment de faiblesse pour ne pas dire d'abandon. Dans de tels concepts, quand vous avez des acteurs politiques, quand vous avez des acteurs militaires qui parfois pour trouver des explications à des choses sont parfois dans l'accusation, ça montre quand même que nous avons une responsabilité partagée.
La question de l'équilibre de l'information n'a pas échappé aux journalistes, car il y a avant tout le droit à l'information. Ibrahim Moussa du Niger.
Même s'il faut faire l'équilibre de l'information, il faut essayer de prendre dans l'extrait de ce que disent les terroristes ou les djihadistes quelque chose qui doit arranger la communauté, mais pas quelque chose qui va créer la psychose au niveau de la communauté. Les confrères ont dit que les difficultés auxquelles ils sont confrontés, c'est surtout leur propre sécurité. Parce qu'une fois sur le terrain, ils sont vraiment exposés. L'ennemi n'a pas de visage.
Selon le colonel-major Ali Mahamadou du Niger, les deux dernières années, il y a eu 133 morts lors de 80 attaques au Burkina Faso, des milliers de morts au Mali à la même période, tandis que le Niger a enregistré 40 attaques de Boko Haram entre 2015 et 2018. Niamey, Kassim Traoré pour VOA Afrique.
Cinéma au Burkina Faso, la 14e édition de Ciné Droits Libres, le festival international de films sur les droits humains et la liberté d'expression en Afrique, se tient en ce moment à Ouagadougou. Justice, levez-vous, c'est le thème de cette année. De la capitale du cinéma africain, reportage de notre correspondant Lamine Traoré.
Affaire Norbert Zongo, affaire du push manqué de 2015, affaire Thomas Sankara. Les questions de justice sont plus que jamais d'actualité au Burkina Faso et dans les rues. Les citoyens ont des avis très tranchés sur la question. Aloïse Oussé est commerçant ambulant.
La justice au Burkina Faso se sent corrompue. Affaire de Norbert Zongo, affaire de Thomas Sankara. Et les gens sont assoiffés pour que la justice soit faite.
Judith Kiema est comédienne. Elle partage le même sentiment.
Sincèrement, de moi-même, je suis burkinabé. Depuis longtemps, j'entends parler des gens qui se plaignent de la justice qui marche chaque année à cause de Thomas Sankara, à cause de Norbert Zongo pour que la justice soit faite. Mais jusqu'à présent, on n'a pas encore de résultat. Le peuple burkinabé a soif de la justice.
Et c'est ce qui a poussé les organisateurs de Ciné Droits Libres à se focaliser cette année sur la question de la justice au Burkina Faso et en Afrique. Abdoulaye Diallo, coordonnateur du festival Ciné Droits Libres.
On sentait qu'il allait avoir le procès du Push au Burkina. On avait suivi un peu le procès Khalifa Sall, le procès de Gbagbo. Il y a pas mal de questions de justice qui sont posées un peu sur le continent. Mais ça va être les 20 ans de l'affaire Norbert Zongo. Et tel que ça se faisait, on se disait, il y a des choses à suivre. C'est un thème qui préoccupe. Il faut y aller.
Au ministère de la Justice, on rassure. Des mesures sont prises pour rendre accessible et indépendante la justice. René Bagoro, ministre de la Justice.
Aujourd'hui, la justice est indépendante. C'est une réalité. Je vous rappelle que même pour nommer les procureurs, c'est appel à candidature.
Il y a des dossiers emblématiques, tels Norbert Zongo, Thomas Sankara. Ces dossiers reviennent chaque fois dans l'opinion. Les gens trouvent que ça traîne toujours.
Je suis conscient en tant que ministre en charge de la justice, surtout en charge des droits humains, que ces dossiers-là constituent un handicap pour l'appréciation positive qu'on fait de la justice. Nous travaillons à faire en sorte qu'aucun moyen ne soit mis de côté pour permettre à ces dossiers de sortir.
Des films engagés, tels Guerre de l'info, Au cœur de la machine russe, de Paul Moreira de la France, La République des corrompus de Salam Zampaligré du Burkina, ainsi que Congo Tribunal du germano-suisse Miloro, sont entre autres des films qui seront projetés à cette édition. Le festival de films sur les droits humains et la liberté d'expression, débuté ce week-end, se poursuit jusqu'au 15 décembre prochain. Durant cette période, le festival entend faire le procès de la justice, avec une scène transformée en tribunal et des films qui feront réfléchir sur les questions judiciaires en Afrique. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
VOA Afrique vous donne la parole.
Dans un nouveau programme interactif, à votre avis, du lundi au vendredi à 18h TU.
Postez vos questions sur notre page Facebook avec votre numéro de téléphone et partagez votre avis en direct sur les points saillants de l'actualité.
À votre avis,
votre voix. Sur la voie de l'Amérique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Daryl Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.